Dans ce secteur. En Corée du Sud, le travail des plongeurs sur la zone du naufrage permet de remonter des corps à la surface. Aux dernières nouvelles, une quinzaine de cadavres est venue s'ajouter à la trentaine de dépouilles déjà sorties de l'eau. Il y a encore près de 250 disparus. Le football, avec la victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue face à Lyon, score 2-1. Suite de la 34e journée de Ligue 1, aujourd'hui avec plusieurs matchs au programme, dont Monaco-Nice et Marseille-Lille. Le vainqueur du tournoi de tennis de Monte-Carlo sera forcément suisse, face à face entre Stanislas Wawrinka et Roger Federer sur une terre battue où aucun des deux a déjà eu l'occasion de s'imposer. La Formule 1 enfin, avec la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de Chine au volant de sa Mercedes. Le Britannique s'impose sur le circuit de Shanghai devant son coéquipier Nico Rosberg et le pilote espagnol Ferrari Fernando Alonso.
D'abord, moi, on m'avait parlé d'un monsieur Vauquier qui était à l'UMP, soi-disant une des éminences grises et des grands. Il n'a pas un frère ?
Non.
Ah bon, parce que je
pensais. Enfin, il a peut-être un, mais en tout cas,
je pensais que c'était lui qui était à l'UMP qui avait dû dire ça, parce que je ne pouvais pas imaginer quelqu'un d'intelligent tienne des propos pareils. Mmh.
Pays artificiel.
Non, pas artificiel. Vous savez, j'aimerais bien que les politiques françaises expliquent aux plus de 100 000 frontaliers français qui viennent travailler tous les jours au Luxembourg qu'ils font un travail artificiel et qu'ils ne contribuent pas justement à la richesse de ce pays. Qu'ils leur disent, qu'ils viennent leur dire. Mmh. Le Luxembourg est un pays qui est basé sur les services. Basé sur les services où, et je l'avoue, on a eu une époque, un temps, où la place bancaire luxembourgeoise n'était pas la plus transparente. On s'est engagé depuis quelques années. À partir du 1er janvier 2015, il y a l'échange d'informations automatique.
Dans 6 mois, qu'est-ce que ça va changer ? C'est la fin de...
Du secret bancaire.
Mais il est déjà ouvert. Vous savez, alors on a eu d'abord l'impôt à la source qui était donc le précompte où on donnait donc aux États. Et là maintenant, à partir du 1er janvier 2015, il y aura les informations qui seront faites.
Automatique.
Donc, échange automatique d'informations fiscales, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ouvre un compte en banque dans votre pays, c'est désormais l'information part automatiquement, même sans être demandée au fisc français.
Non, alors pour compléter votre question, un Français qui habite en France, qui vient ouvrir un compte au Luxembourg, oui, mais quelqu'un qui habite au Luxembourg, non. Oui, quelqu'un qui vient de l'étranger, donc c'est un résident étranger qui ouvre un compte au Luxembourg, oui. On ne peut pas aujourd'hui être la place bancaire de la fuite du fisc. Donc on ne peut pas être là en disant on veut se faire de l'argent sur le dos des fiscs d'autres pays.
Représenter quel manque à gagner pour votre économie.
C'est sûr qu'il y aura des clients, mais ça fait déjà quelques années qu'il
y a
la place luxembourgeoise est en transition depuis un certain temps.
Vous le savez, vous qui gérez ce pays,
On sait que ça aura des répercussions sur le travail, on sait que ça a une répercussion sur les rentrées, mais on ne pouvait pas faire autrement et on ne voulait pas faire autrement.
Vous n'êtes pas d'accord avec les estimations qui courent de 15 milliards de manque à gagner ?
Il y a un engagement qui a été pris par le précédent gouvernement de vouloir avoir une place bancaire luxembourgeoise qui soit réputée pour ses compétences, pour ses services. Aujourd'hui, vous parlez par exemple de la place bancaire. La politique des fonds, personne n'y a cru au début. On est la deuxième place mondiale pour tout ce qui est fonds. On est la première place en Europe pour les fonds d'investissement. Donc il y a tout simplement au Luxembourg toujours su avoir une législation qui réagit rapidement, qui regarde là où il y a des niches, qui regarde là où légalement on peut faire quelque chose.
Donc on va passer donc du secret bancaire à l'optimisation fiscale.
On va rentrer tout simplement à des produits légaux, en légalité avec les 28 autres pays membres, avec les règles internationales. Et ce qui était très important pour nous aussi, vous savez, quand on parle de transparence et d'échange d'informations, c'est que ce soit fait au niveau du G20 et au niveau du GAFI. Mmh. Et donc ce soit aussi un standard mondial qui doit... Quel est l'avantage maintenant de dire, alors on va supprimer le Luxembourg, mais la Suisse va le faire. Ou alors on va supprimer la Suisse, mais alors Dubaï ou Singapour vont le faire. Ce qui est important, c'est qu'au niveau mondial, on se mette d'accord que l'argent que l'on gagne dans un pays, eh ben, ce qui est à payer...
C'est pas la première fois qu'on dit que le secret bancaire, c'est fini. Sarkozy l'avait dit en 2009. Donc ça met beaucoup de temps. Est-ce que 2015, c'est vraiment le début, la levée du secret bancaire est effective ? Ou est-ce qu'il y a encore des possibilités ?
Moi, je pense que c'est le début d'une nouvelle époque. J'en ai ras-le-bol qu'on parle de fin d'une époque.
Est-ce qu'il y a encore des conditions ? Est-ce que si la Suisse ne continue pas à progresser dans sa négociation avec l'Union européenne, vous pourriez éventuellement... faire machine arrière.
J'ai pris un engagement, je l'ai pris au dernier Conseil européen, que le Luxembourg, et ça a été déjà adopté, hein, la directive épargne a été adoptée déjà lors d'un Conseil agricole, parce que c'était en point A. Tout ce qu'il y a, c'est que, et c'est ça ce qui est important, avec les cinq autres pays, dont Andorre, San Marin, Monaco, Liechtenstein et la Suisse, il a été retenu dans les conclusions que si l'Union européenne n'obtient pas d'ici décembre des garanties de la part et des évolutions de la part de ces pays, pas seulement des garanties, parce que du blabla, du concret, comme quoi que ces cinq pays vont aussi dans ce sens et qu'on a des garanties et un agenda avec un timing, qu'est-ce qui va être fait, quoi, oui, comment, l'Union se réserve le droit de garantir. Et c'est-à-dire qu'on verra quels sont les moyens que l'Union européenne a par rapport à ces cinq pays pour garantir. Et c'est que la Suisse, les autres quatre sont déjà allés en diapason avec l'Union européenne. Mais je suis content parce que c'est une nouvelle époque, vous l'avez dit tout à l'heure.
Dans ce sens-là.
J'ai pas envie de pousser, j'ai pas envie de parler. Vous allez parler de sanctions, je suis sûr. Vous allez sur le
bout
de
la lèvre. Éventuelles, au moins.
On l'a presque entendu, alors. Y aurait-il des sanctions?
Le but, tout simplement, aujourd'hui, et c'est ce qui est important, je vous le dis encore une fois, c'est qu'au mois de mai et au mois de juin, au niveau du G20, au niveau du GAFI, il y a des règles qui prennent. Parce que même la Suisse, si après vous avez d'autres placements qui ne font rien, ça c'est pas utile non plus. Donc il est important qu'on avance dans ce sens-là.
Donc vous nous dites, monsieur le Premier ministre, dans 8 mois, il y a un nouveau Luxembourg.
Dans 8 mois, il y a pas un Luxembourg qui est en transition déjà depuis 3-4 ans et qui aura atteint encore une nouvelle étape.
Parce que je cite cet homme politique à nouveau français sur lequel nous donnons c'est bien lui, je vous assure, je vous laisserai la dépêche. Hein. Laurent Wauquiez dit effectivement, le Luxembourg n'a pas de tissu économique et industriel.
C'est faux de parler qu'on a. Mais il y a que des banques, mais qui viennent. Pour quelqu'un qui était quand même au gouvernement pour les affaires européennes, tout simplement, allez voir le Luxembourg. On est un des pays, point de vue, par exemple, tout ce qui est IT, on a la fibre, on est au point de vue rapidité, on est en train d'avoir les hautes technologies, les biotechnologies, l'industrie. On a, avec la Lorraine, on partage une histoire minière qui encore des gens aujourd'hui travaillent dans le fer dans ce pays.
On a des technologies.
Mais il y a toujours des gens qui travaillent à la mine, c'est un emploi très honorable, il ne faut pas les ouvrir.
Mais l'industrialisation, le pays compte moins sur son industrie au sens classique du terme que sur ses services.
Oui, mais c'est pour ça qu'aussi on est en train d'investir. Ce gouvernement, tout à l'heure on a parlé d'économie, le gouvernement veut faire des économies, sauf là où vraiment ce sont des produits d'avenir, que ce soit les biotechnologies, que ce soit la logistique. La logistique permettra à des gens qui ont peu de formation de pouvoir trouver un emploi aussi là-dedans. Parce qu'on ne peut pas, si on fait l'IT, on ne peut pas mettre tout le monde derrière un ordinateur, il n'y a pas tout le monde qui a les capacités pour le faire.
On va revenir d'un mot sur cette image de paradis fiscal, ce sera peut-être la dernière question que vous poserez là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps? Vous avez, je répète, un peu plus de 40 ans. Pourquoi est-ce que le gouvernement précédent a mis autant de temps? Il y avait un mauvais vouloir politique, il y avait une difficulté, ça ramenait trop d'argent, les déposants disaient on préfère cette opacité. Qu'est-ce qui s'est produit? Après, on n'a pas, c'est promis, mais...
Parce que je trouve encore une fois que ce qu'a décidé l'ancien gouvernement et ce que continue à faire ce gouvernement, c'est tout simplement de faire ça dans une suite logique, en ayant aussi une harmonisation qui soit faite au niveau international. C'est ce qui a été fait et on a vu que ça avance dans ce sens-là. C'est pour ça que ce qui est important.
Alors, il y a un autre grand rendez-vous important dans un peu plus d'un mois, le 25 mai prochain, ce sont les élections européennes. Le Luxembourg est pays fondateur de l'Union européenne. On a le sentiment que l'Europe ne va pas très bien. Les eurosceptiques ont le vent en poupe, pourraient avoir leur groupe. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce rêve européen dans lequel votre pays a été un ardent acteur initial, il y a près de 60 ans maintenant, pourquoi est-ce que l'IA ne fait plus rêver? C'est de la faute à qui?
À nous. À nous. À nous. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on vous dit c'est Bruxelles. Alors on parle, c'est sûr, on va parler des pots d'huile, on va parler de la banane, on va prendre ces exemples idiots, on va parler aujourd'hui de la politique de...
De la difficulté à décider aussi à 28 déjà.
Je dirais pas que c'est la difficulté à discuter, je dirais tout simplement c'est le fait qu'on arrive, on a beaucoup de mal, vous voyez, à expliquer certaines décisions nationales qui sont prises, parce que les décisions au niveau de l'Europe sont prises par nous. Il faut arrêter de dire que c'est Bruxelles qui décide. Il n'y a pas Bruxelles, quelqu'un qui s'appelle Bruxelles et qui dit c'est moi qui prends les décisions. Les décisions sont prises au Conseil des ministres, on est à 28, elles sont prises au Conseil européen, on est à 28.
Vous voyez comment elles sont prises, par exemple, dans le champ de la politique extérieure. Par exemple, de ce côté-là, on progresse pas beaucoup.
Ça, je pense que c'est pas le sujet qui intéresse vraiment les Européens aujourd'hui, la politique extérieure, qu'elle soit commune ou pas commune.
Peut-être que ça donne pas tellement d'existence à l'Europe de voir que sur les grands conflits qui ensanglantent la planète, comme en Syrie, par exemple, ou les endroits de tension comme en Ukraine, il n'y a pas une voie européenne.
Mais c'est dur aussi, on n'a pas d'armée européenne. Donc si on avait un l'exécutif européen et donc après avoir pris des décisions, on pouvait envoyer ses troupes ou quoi que ce soit, on pourrait, mais on n'a pas. Alors quelles sont les... On peut prendre des sanctions économiques au niveau européen, on peut prendre des sanctions énergétiques, on peut prendre des sanctions financières. Mmh. Donc il est très dur de pouvoir, quand vous avez l'ONU qui prend une résolution et qui décide d'envoyer des casques bleus, d'envoyer une mission, d'autoriser quoi que ce soit, elle a une force. L'Europe n'a pas ça. Donc l'Europe aujourd'hui, c'est, je pense que c'est ça ce qui est très important. Quand je parlais tout à l'heure, parce que permettez-moi juste de revenir sur ce sujet, qui je pense est important. Aujourd'hui, quand on dit, vous dites, madame, les gens de partis d'extrême vont dire lors des élections européennes en France et partout, si on a une politique de rigueur, si on peut pas dépenser plus, c'est à cause de Bruxelles. Et au lieu de nous dire que non, c'est pour nous, c'est pour les générations futures, c'est pour avoir une politique qui correspond et qu'on arrête de faire la politique du chéquier sur des comptes qu'on n'a pas, on va dire oui, mais bon, on n'a pas le choix, on doit le faire parce que Bruxelles a décidé. Et nous-mêmes, on le dit. Et souvent, des textes où on a donné notre accord au Conseil des ministres ou quoi que ce soit, on va dire oui, mais ça vient de Bruxelles.
C'est une facilité démagogique.
Je pense qu'on oublie ce que nous apporte l'Europe. Vous savez, j'ai été étudiant, juste deux secondes, j'ai fait un programme Erasmus. Ouais. J'ai été étudiant en Grèce. J'ai passé des frontières où la frontière était fermée le soir parce qu'il y avait un match de volleyball à la télé. J'ai dû désinfecter ma voiture parce que soi-disant, je ramenais des microbes dans un autre pays. Aujourd'hui, je me promène librement en Europe avec de l'argent. J'ai pu me faire soigner à l'étranger. J'ai pu faire mes études à l'étranger. Je peux partir en vacances à l'étranger. Je peux me marier avec une personne, quel que soit son passeport. Ce sont des choses qu'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui sans les avoir.
Alors vous disiez
et qu'avant c'était pas une évidence. Vous... Aujourd'hui, tout ce... l'acquis européen est devenu une évidence.
Alors vous disiez c'est notre faute.
On oublie de
vous disiez c'est notre faute si l'Europe ne va pas bien. Donc peut-être
mais nous-mêmes et... aussi.
Oui.
On oublie de dire ce que l'Europe nous apporte. On dit tout ce qui ne marche pas en Europe. On oublie de dire ce qui nous ce que nous apporte.
Mais enfin, on peut pas faire l'impasse sur la crise économique, la crise
mais
de
la
zone
pas de la
euro.
De
non, mais l'Europe peine à y trouver des,
et
des
solutions. Et la crise vient d'où? La crise vient d'où? Parce qu'on a vécu au-dessus de nos moyens. On a dépensé plus qu'on avait. On a eu des dettes.
Mais si on veut de solidarité, par exemple, quelle solution est-ce que l'on trouve en commun à ce type de problème?
Mais les solutions telles qu'on a décidé maintenant de voir comment on peut aider. On a aidé quand même certains pays qui étaient en difficulté. On aurait pu, vous savez, aujourd'hui, moi, si aujourd'hui on dit à certains pays, il faut réduire votre dette à temps, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut remplir tel critère.
La potion a été amère pour les Grecs. Hein.
D'accord, mais si demain, un pays ne le fait pas, et après-demain, il fait SOS, j'ai besoin de sous. Vous croyez que dans mon Parlement, je trouverai une majorité de gens qui vont dire, on leur avait dit de faire ça et ça et ça et ça. Ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, ils disent, j'ai besoin de sous. Et que mon Parlement va dire, bravo.
C'est comme ça que certains s'interrogeaient sur le maintien ou non de la Grèce au sein de l'Union européenne.
On doit arrêter aussi de dire, il doit y avoir aussi une certaine solidarité. Ce qui est important, c'est de prévoir maintenant. Et c'est pour ça que je suis content qu'on ait aussi l'Union bancaire maintenant qui existe pour éviter de telles crises à l'avenir. Et que ce ne soit pas le contribuable qui soit le premier à devoir renflouer les caisses dans ce cas-là, mais que ce soit les banques entre eux.
Il y a un débat actuellement. Vous dites que ce n'est pas de la faute à l'Europe sur la crise. Certains disent que c'est de la faute à l'euro, notamment dans le gouvernement français. L'euro serait trop fort. Qu'est-ce que vous en pensez-vous? Je vois que vous levez les yeux au ciel, ça ne vous convainc pas non plus, ça.
On va se plaindre maintenant qu'on a une économie qui reprend et avoir un euro fort?
Il pénalise l'exportation.
C'est ça ce qui me fait rire. Alors, quand l'économie va mal et l'euro est faible, on va dire l'euro est trop faible, mais l'économie ne va pas bien, donc c'est pas bien. Maintenant que on reprend, l'économie reprend, l'euro commence à grimper, on va dire que l'euro est trop fort. On ne peut pas bloquer, on ne va pas faire, comme certains pays, faire un blocage en disant à partir de ça, c'est bloqué. Soyons fiers d'avoir une monnaie qui ait de l'argent et que ce qu'on ait un pouvoir d'achat qui augmente grâce à l'euro qui augmente.
Quand vous entendez par exemple Marine Le Pen en France, et même d'autres formations, il faut sortir de cette monnaie, sortir de l'euro.
Ça me rend triste. Ça me rend triste et j'en ai... Que les gens réalisent aujourd'hui ce que vaudrait le franc français. Je ne sais pas si on parlerait de centimes encore ou de francs anciens.
Vous craignez qu'il y ait une montée dans les résultats des élections à venir, qu'il y ait une véritable montée des eurosceptiques?
Dans un mois, oui.
Si nous-mêmes, on n'arrive pas à croire en l'Europe, si nous-mêmes, on n'arrive pas à défendre l'Europe, si nous-mêmes, en tant que politiques, qui sommes des Européens, pas tous, mais pour un grand nombre convaincus, oublions de dire ce que nous apporte l'Europe, d'expliquer ce que c'est l'Europe. Oui. Et aujourd'hui, vous savez, en plus, surtout, mais ça c'est la preuve, en période de crise, on cherche toujours un coupable. Et donc les partis extrémistes essayent toujours de montrer qui peut être coupable.
Et il y a cette figure de l'eurocrate de Bruxelles, lointain, loin des préoccupations des populations. Il y a cette figure-là, c'est là-dessus que jouent les extrêmes et les eurosceptiques.
Mais ils vont parler aussi, alors ceux qui sont eurosceptiques, ils vont parler des eurocrates de Strasbourg aussi.
Oui,
ils vont parler des eurocrates
fait,
de Luxembourg. Ils vont dire qu'est-ce que c'est que ces fonctionnaires dans ces trois capitales. C'est ça aujourd'hui.
Et pour ça, c'est une bonne chose à ce moment d'avoir un duel, des candidats qui se battent pour diriger la Commission européenne, d'avoir un Juncker et Schulz qui est à débattre, mais on les entend pas encore beaucoup.
Alors on les entend un petit peu. Il faut dire que ce sont des personnes qui ont beaucoup de points communs. Hein, ce sont des gens.
Qu'est-ce qui les différencie?
Pas que la barbe de M. Schulz. Ce sont des personnes qui ont. Jean-Claude Juncker est quelqu'un qui est peut-être d'un parti de droite, mais qui est très engagé socialement.
Vous soutenez, lui, par exemple ?
Jean-Claude Juncker ? Oui, je soutiens la personne. Je ne soutiens pas le parti, mais je soutiens la personne. Donc, si Jean-Claude Juncker a l'opportunité.
Vraiment, pour les lecteurs, c'est difficile à comprendre.
Pourquoi ? Je le dis. Moi, j'ai un candidat qui s'appelle Guy Verhofstadt. En tant que libéral. Oui. Guy Verhofstadt, s'il a la chance de pouvoir l'être, il l'est. Mais c'est les gouvernements qui nomment les commissaires, vous devez comprendre. Donc si demain,
cette fois,
on me demande...
On va tenir compte du résultat des élections.
Bien sûr,
parlement.
Et si Jean-Claude Juncker... Parce que je dois voter quand même après au Conseil européen. Je suis même petit, j'ai un droit de vote.
Une voix comme l'Allemagne,
j'ai
comme d'autres
pays. Au Conseil européen, oui. Ouais. Et donc si la candidature de Jean-Claude est arrivée en tête et on propose, il peut compter bien sûr sur moi. Je ne vais pas dire je vote contre lui parce que je veux que ce soit Guy Verhofstadt. Si Jean-Claude est le candidat qui sort qui est proposé, le Premier ministre luxembourgeois soutiendra bien sûr sa candidature. Et vous savez que c'est un Européen qui est convaincu. C'est quelqu'un qui est de droite,
mais
qui
est... Qui est
un Européen convaincu ?
Si, aussi. Mais vous devez comprendre qu'en tant que luxembourgeois, on est fiers si on pouvait avoir un candidat luxembourgeois à la présidence. Mais pas qu'un candidat, un président.
C'est une logique difficile à comprendre pour les eurosceptiques.
Mais de toute façon, ils veulent rien comprendre. Un vrai eurosceptique veut rien comprendre. Un eurosceptique, de toute façon, tout est mauvais. Il commence déjà, il entend la 9e de Beethoven, il trouve déjà que c'est moche. Donc, alors, il est tout ce qu'on vous allait dire sur l'Europe, de toute façon, est pas bon, c'est pas bien, on n'a pas d'hymne européenne, on n'a pas d'identité européenne, on n'a pas d'histoire européenne.
Il faut prêter un peu d'attention à ce qu'ils disent, si on veut pouvoir
répondre. Si, on doit répondre, justement, parce qu'il y a des choses qui sont dites qui sont tellement ahurissante qu'il faut réagir. Le problème quand quelqu'un dit la sortie de l'euro, la sortie de l'euro, qu'on explique ce que c'est, qu'on rajoute des frontières partout, qu'on dise ce que c'est, qu'on fasse des quotas de gens qui viennent travailler. On va choisir comment sur les diplômes, sur les on fait, pour ceux qui ont de l'argent, auront le choix. Mais qu'on réfléchisse.
L'immigration choisie, c'est quelque chose qui vous parle pas.
On doit avoir une immigration qui est une immigration qu'on arrive à supporter. Hein, vouloir dire on veut une immigration sans limite ou quoi que ce soit et qu'on n'arrive plus à les supporter risquera de renflouer les chiffres de l'extrême droite. Donc ce qui est important, mais il ne faut pas dire on veut juste une immigration qui ait de l'argent ou qui soit de telle et telle telle.
Il y a un autre débat à propos de ces élections européennes, c'est l'Europe jusqu'où. Donc je disais, l'Europe initiale dont le Luxembourg fait partie, c'est l'Europe des 6. Aujourd'hui l'Europe à 28. Certains pays veulent introduire un référendum pour savoir si on en accueille d'autres. Par exemple, sur la Turquie, vous situez comment, vous ?
Alors déjà, pour répondre à votre première question, organiser un référendum, pourquoi ? On n'en a jamais fait jusqu'à aujourd'hui.
Oui ou non ?
Oui, mais on n'en a jamais fait jusqu'à aujourd'hui.
C'est
pourquoi est-ce qu'on change les règles du jeu ? Alors, selon le candidat, on va dire, là, ça risque d'être délicat. En politique, vous savez, en 57, le traité de Rome, quand l'Allemagne est rentrée, si on avait fait un référendum, je ne sais pas s'il y aurait une majorité dans les pays en France pour dire on veut l'Allemagne autour de la table. Donc, il faut avoir le courage. Tout ce qui m'énerve, moi, terriblement, c'est que les Turcs, ça va faire des années, ça va faire bientôt 30 ans, qu'on leur dit vous allez être membre bientôt.
On négocie.
Et à chaque fois, on va retrouver un nouveau si. Alors qu'on leur dise oui ou non, mais qu'on arrête de les faire languir et leur dire... Parce qu'un jour, c'est eux qui vont nous dire, eh ben écoutez... On n'en veut plus, nous, de l'Europe. Et il faut se poser la question. Il faut se poser la question s'il y a 30 ans, c'était juste géographiquement. Est-ce que la Turquie est en Europe, point de vue géographie, ou pas ? Mais la question a été tranchée il y a 30 ans, puisqu'on leur a dit, vous pouvez devenir candidat. Ce que j'aime pas, c'est qu'aujourd'hui, on fait des règles qui comptent pour les uns et qui comptent pas pour les autres. Ce qui est important.
Mais vous-même, vous êtes pour ou contre l'entrée de la Turquie ?
Dans la situation actuelle, contre. La situation actuelle compte. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, il y a des efforts encore à faire, que ce soit point de vue justice, que ce soit point de vue les affaires Twitter ou quoi que ce soit, sont des choses qui ne sont pas conformes à nos valeurs européennes. Il faut juste fixer des règles et arrêter de les modifier. Une fois que les règles sont fixes, vous ne lancez pas une course et après vous changez à chaque fois l'arrivée et vous la repoussez.
Et pour d'autres pays, d'Europe centrale orientale,
soyons honnêtes. S'ils n'étaient pas musulmans, ils seraient membres de l'Union depuis 30 ans. C'est la religion qui fait peur. C'est la religion qui fait peur. Et c'était il y a 30 ans, on le savait pertinemment. Alors, est-ce qu'on est prêt à avoir un pays musulman dans l'Union européenne ? Oui ou non ? Qu'on se mette autour d'une table et qu'on en discute. Mais arrêtons de leur trouver toujours une excuse autre que celle-là. Ce qui fait peur à la plupart des États, c'est de se demander s'ils sont prêts à avoir un pays musulman dans l'Union ou pas. Mais la richesse de cette Union, c'est justement ces différences.
Et vous, ça ne vous pose aucun problème ?
Non, mais j'ai d'autres problèmes, c'est ce que je vous ai expliqué.
Bien sûr.
Il y a certaines... certaines
passes droits, par exemple.
Qui, pour moi, aujourd'hui, sont...
Et pour d'autres pays, pour un 29e, un 30e pays, qui ne serait pas forcément la Turquie, vous êtes tout à fait ouvert à un nouvel élargissement?
Je pense que l'Européen aura du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on veut s'élargir encore aujourd'hui. Ouais. Il a déjà du mal qu'on soit passé à 28. Donc c'est pour ça que vous parlez de la Turquie, que vous parlez d'autres pays ou quoi que ce soit. Actuellement, je pense qu'il serait important d'aider les pays qui sont candidats à avoir une économie pour éviter de dire après, oui, mais on a un déficit, on doit donner plus d'argent à ce pays, parce que maintenant, il est dans l'Union européenne, on doit le remonter. Donc je pense ce qui est important, c'est que les disparités qui pourraient exister entre des pays membres et des pays candidats soient les moins élevées pour qu'on arrive vraiment
à... Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg. Question internationale, justement. Vous avez une armée de moins de 1000 hommes. Est-ce que ça vous condamne au silence diplomatique?
Non. Non. On avait, pour meilleur exemple, on a eu la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU le mois dernier. Je pense qu'il n'y a pas de poste au niveau diplomatique international qui soit plus prestigieux que celui-là. Et c'est un travail de longue haleine qui a été fait. On a la présidence de l'Union européenne deuxième semestre 2015. Et au quotidien, nos ambassades, nos réseaux diplomatiques font le travail. Et c'est pas l'armée. De donc, penser déjà que l'armée doit être un bras de la diplomatie, ça me fait problème.
Mais quand il y a une crise, comme on peut en voir en Afrique, en République centrafricaine par exemple, comment est-ce que vous pouvez agir? Comment est-ce que vous agissez?
Alors, vous avez deux choses. Au Luxembourg, on est un des rares pays à donner 1% pour la coopération. Mm-hmm. Ça fait partie aussi d'une stabilisation internationale, d'investir dans les pays pour d'éviter qu'il y ait des conflits, de donner une perspective à des jeunes gens, de leur faire une école, de leur donner une formation, de leur donner...
1%, les objectifs du millénaire ciblaient 1,7%. Donc, quand même, tout le monde reste...
Je crois qu'il y a deux pays en Europe qui ont 1%, donc ce serait déjà pas mal. Alors moi je vous dis honnêtement,
on n'est quand même pas arrivé à ce qui était fixé dans les objectifs du millénaire.
Oui, mais je vous dis honnêtement que avec 1%, on fait partie des rares pays à remplir. Et je trouve qu'au contraire, c'est de l'argent qui est investi pour une stabilisation aussi au niveau international, et que c'est de l'argent qui est bien investi. Ce qui se passe cependant, c'est que aujourd'hui on dirait oui, vous pouvez avoir une armée plus grande, mais est-ce que dans ce cas-là je vais retirer à l'un pour donner à l'autre? Je pense pas que ce serait opportun. Vous avez parlé
de la crise centrafricaine.
En Centrafrique, on envoie deux personnes.
Il y a besoin d'aide. Ce sont les Congolais, par exemple, qui sont en train de payer les fonctionnaires en Centrafrique. Est-ce que les Européens pourraient pas mettre un petit peu la main à la poche pour des moments crise comme celui-là?
Oui, mais il faut dans ce cas-là qu'on voit aussi comment on coordonne la politique européenne, comment on coordonne la politique de coopération aussi, et qu'on en parle au niveau européen. Je sais que croyez-moi que François Hollande est quelqu'un qui est et c'est un sujet qui lui tient à cœur et qui nous le rappelle et qui est en train de voir comment est-ce qu'on peut coordonner quelque chose.
On vient de voir dans les journaux de RFI et de TV5 la situation de l'Ukraine. Est-ce que l'Europe parle comme il faut aujourd'hui à Poutine, au numéro 1 russe? Est-ce qu'il faut être plus ferme? On parlait de sanctions, terme que vous n'avez pas forcément. Est-ce qu'on a la bonne posture européenne face à la déstabilisation en Ukraine?
Je pense que la situation en Ukraine est une situation qui est difficile actuellement, car je sens que les intérêts des uns et des autres est bien sûr pas le même. Je pense que la proposition qui a été faite aussi par le président ukrainien de vouloir faire un référendum sur le système de l'État ukrainien est une proposition qui va dans la bonne direction. C'est pas à nous. Pourquoi je vous ai dit ça au début, que c'était compliqué? J'ai l'impression qu'on décide pour eux. Et les gens qui ont décidé ce qui se passe en Ukraine sont les Ukrainiens.
Il faut les accueillir en Europe?
Non, d'abord, on doit poser la question aux Ukrainiens de ce qu'ils veulent.
Mais déjà, comment
donc,
en est-on
arrivé
là?
Donc, il faudrait ce référendum sur quel pays ils veulent. Est-ce qu'ils veulent un État fédéral ou est-ce qu'ils veulent garder l'État comme il fonctionne aujourd'hui? Première question. Après, selon le gouvernement, il y aura des élections. Je pense qu'il va y avoir des élections présidentielles, donc maintenant, le 25 mai. Il faudra aussi des élections législatives. Et que ces élections législatives, les partis prennent position pour l'Europe ou pas pour l'Europe. Et ce sera aux Ukrainiens de décider quelle majorité ils veulent dégager. Ce n'est pas à nous d'imposer à un pays, tu dois aller vers là ou vers là. Ce n'est pas comme ça que moi je conçois, en tout cas, le choix démocratique d'un pays.
Isabelle Bédel, merci de nous avoir reçus ici même au Luxembourg pour ce numéro spécial d'International sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. On retient à nouveau une nouvelle donne. On va pas parler d'un nouveau Luxembourg à partir du 1er janvier 2015 en matière d'échange d'informations automatiques au plan fiscal. Merci de nous avoir accueillis. Excellente suite de programmes sur les antennes de Radio France Internationale et de TV5 Monde. Nous retrouverons bientôt pour une autre émission d'International.
Oh, yeah.